A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Bonjour et bienvenue sur notre antenne. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 Minutes Info. Je vous présente le sommaire de notre émission juste après le rappel des titres. Il est signé Mathieu Devez aujourd'hui.
La justice décide de ne pas prescrire le meurtre d'une femme en 1986. Marie-Thérèse Bonfanti, âgée de 25 ans et mère de deux enfants, avait disparu en mai 1986 alors qu'elle distribuait des journaux à Pontcharrat, c'est en Isère. Le délai de prescription était pourtant de 10 ans dans cette affaire, mais l'arrestation d'un suspect l'année dernière a changé la donne. Ce dernier a avoué le meurtre de la jeune femme. Un bus coupé en deux lors d'un accident avec un train à Sevin en Savoie. Les faits se sont produits ce matin à proximité de la gare. Un bus qui ne transportait pas de passagers s'est retrouvé pour une raison indéterminée arrêté sur le passage à niveau. Il a alors été coupé en deux par un train de voyageurs. Le bilan est d'un blessé grave, trois légers. Moins 53 degrés en Chine, record de froid battu dans le pays. Une vague exceptionnelle de froid venue ce week-end de Sibérie s'est étendue dans le nord du pays. À Moé, une brume givrante paralyse la ville depuis quelques jours. La barre des moins 50 degrés n'avait d'ailleurs pas été atteinte dans le pays depuis 1969.
Aujourd'hui, nous vous parlerons de la réalité de la sécurité dans les transports. Alors que l'affaire devient politique, puisque Reconquête s'est emparée de la question, quelque chose entendu justement aux abords des gares.
Quand je suis sortie juste pour fumer une cigarette, j'ai essayé de me rapprocher des gens. Gare du Nord, dehors, on se fait souvent aborder.
Je prends mes précautions, on marche et puis on regarde ni à droite ni à gauche. Et voilà, surtout quand on est seul, quoi.
Tapez fort et partout, les syndicats sont sérieusement à mener des actions dans les stations de ski pendant les vacances scolaires pour tenter de faire reculer la réforme des retraites.
On fait grève un petit peu comme tout le pays, hein. Donc on s'est contre cette réforme des retraites. Moi, en tant que pisteur secouriste, je me vois mal monter au sommet des crêtes pour aller déclencher préventivement les avalanches à cet âge-là.
Enfin, les femmes sont-elles les grandes oubliées de la réforme des retraites? Y a-t-il un angle mort? Ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait déjà un angle d'attaque dans l'hémicycle. Nous serons d'ailleurs dans un instant à l'Assemblée avec beaucoup de questions qui portent sur la place des femmes dans cette réforme des retraites.
Évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas.
Donc les femmes sont pénalisées par...
Non, mais elles sont un peu plus impactées du fait que...
Voilà le programme et nous allons déjà commencer à en débattre. Et puis on sera, je vous le disais à l'instant, dans l'hémicycle d'ici un tout petit instant. Bonjour Philippe Doucet, bienvenue sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti Socialiste. On a plaisir à accueillir également Hubert Coudurier, qu'on n'avait pas revu, en tout cas dans ce format d'émission. Ça fait un petit moment que je ne vous avais pas vu.
Bonjour Nelly.
Bienvenue à nouveau. Je rappelle que vous êtes directeur de l'information du Télégramme. Et puis à vos côtés, Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Je vous le disais, au lendemain de la présentation de la réforme des retraites en Conseil des ministres, l'Assemblée attendait de pied ferme le gouvernement quelques jours après une mobilisation de la rue réussie. Et les questions ont fusé dès le début de la séance de questions au gouvernement tout à l'heure. Ainsi, la question portant sur la place des femmes dans cette réforme des retraites.
Au contraire, nous réduisons les inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes au moment de la retraite. Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation des petites pensions. Elles sont aujourd'hui plus nombreuses à avoir cotisé avec des revenus modestes. Et grâce à la revalorisation de la retraite minimale, près d'un tiers d'entre elles vont voir leurs pensions augmenter. Pour les retraités actuels, notre projet bénéficie, là encore, davantage aux femmes. L'augmentation moyenne des petites pensions sera deux fois plus élevée pour elles que pour les hommes.
Philippe Doucet, celle-là, elle est pour vous. Hein. On dit qu'à diplôme égal, à expérience équivalente, les femmes gagnent moins parce qu'elles ont ces fameuses carrières trouées, des temps partiels qui sont imposés et donc des pensions de retraite plus faibles. Comment se peut-il que ce gouvernement n'ait pas tout prévu, au moins pour éviter de se faire attaquer sur cette question?
Ce qui est intéressant de ce que vient de dire Elisabeth Borne, la Première ministre, en réponse, enfin, elle ne répond pas à la question, en fait. Hein. C'est-à-dire que elle répond à la question des petites retraites, donc la place, enfin, les petites retraites pour les femmes, donc celles qui sont effectivement déjà à la retraite, mais elle ne répond pas à la question de la durée de cotisation des femmes qui sont en activité, quel que soit aujourd'hui. Voilà. Et donc, ce qui est stupéfiant, mais comme quoi il y a une part d'amateurisme, c'est... vous allez peut-être passer l'extrait, c'est M. Riester, ministre, qui vasouille dans le potage sur la réponse en disant hein, « Oui, bah, en fait, c'est 7 mois de plus pour les femmes, parce que pour les raisons que vous avez évoquées, c'est qu'elles ont la question des maternités, même si effectivement il y a des trimestres pour cela, mais ils sont surtout des carrières plus hachées, plus compliquées que les hommes, parce que le marché du travail pour les femmes étant ce qu'il est, eh bien, il est inégalitaire par rapport aux hommes, et donc à la fin, ils auront... la facture, si je puis dire, de ces carrières plus compliquées. Et donc, à la place de le reconnaître et de voir comment on fait, parce que je veux dire, c'est un vrai sujet, et quand on est sur un sujet de l'égalité homme-femme, on ne peut pas se dire que, et qu'on veut en plus, considérer qu'il faut plus d'enfants et ça. Donc, si on veut accompagner, aider les femmes salariées dans tout leur parcours de vie, ça ne peut pas être à la fin, elles, qui soient pénalisées par rapport à ça.
Hubert Coudurier, ça vous donne quelle impression, au fond ? Parler d'amateurisme, est-ce que vous reprenez ce mot à votre compte ? Est-ce que, globalement, quand même, tout cela est assez mal ficelé ?
Alors, on a eu une rencontre avec la Première ministre de la presse régionale il y a une dizaine de jours, et elle nous avait déjà parlé des femmes en nous disant que la loi apportait des progrès, mais que rares étaient ceux qui connaissaient très bien la loi. Donc, aujourd'hui, on a un peu le sentiment, effectivement, qu'il y a de l'amateurisme au niveau des éléments de langage qui n'ont pas été distribués à tout le monde. Et de toute façon, il y a un retard en termes de parité homme-femme. Donc, il s'applique naturellement.
On a tenté de combler avec les trimestres maternité, les trimestres éducation, mais effectivement,
permettez-moi
on ne comptait
pas. De croire que tout ça va servir la cause des femmes, puisque je pense qu'ils vont rectifier le tir, et bien que cette réforme va coûter très cher. Et je crois même qu'elle coûte que par rapport aux économies qu'elle était censée faire, on est déjà plus dans le compte. C'est-à-dire que je pense que le gouvernement, il y a d'abord une bataille parlementaire qui s'amorce. On va voir quels sont ceux qui s'alignent, parce qu'on a un peu l'impression en ce moment que chacun part de
ça tire côté, à Uadia, les LR, c'est pas
l'axe avec les LR n'est pas fait. Mais au fur et à mesure, je pense que le gouvernement va être obligé de faire des concessions multiples dans différents domaines, ça s'en est un, et que finalement cette réforme risque de coûter très cher.
Votre sentiment, Jean Messia, sur ce qu'il décrit, c'est-à-dire à force d'aménagement ou de rectification à la marge, ça finira par alourdir la facture. Vous êtes d'accord avec lui ?
Vous savez, lorsque une réforme rencontre une résistance sociale extrêmement forte, le coût s'allonge toujours, soit en raison des concessions qu'on fait, soit en raison de poches d'économie qu'on avait prévues et que finalement on ne réalise pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une réforme effectivement extrêmement complexe dans les détails. Que même les macronistes autoproclamés hommes les plus intelligents de tous les temps, certains d'entre eux ne comprennent pas. Et donc effectivement, il y a des prises de pied dans le tapis, comme on l'a vu, ou en tout cas une insuffisance à expliquer les choses, parce qu'en plus, il y a des détails embarrassants, comme la question de la retraite des femmes. Enfin, sur le fond, je pense qu'effectivement, il y a une inégalité de marché entre hommes et femmes, mais que le marché, cette distorsion de marché, ne peut pas être résolue par le marché lui-même. Il appartient justement à la puissance publique de prendre à sa charge ce qu'on appelle en économie des défaillances de marché, celle-ci en est une, pour garantir aux femmes qui, par ailleurs, ont une vie hors du marché. On l'a vu, la maternité, les carrières hachées, les enfants, etc. Il appartient donc à la puissance publique de prendre en compte ces distorsions de marché pour faire en sorte qu'à la fin, il n'y ait pas d'inégalité issue du marché. Parce que si le rôle de l'État à l'origine, c'est de corriger les insuffisances de marché. Donc s'il ne le fait pas sur une question aussi importante, on ne sait pas où il fait.
Peut-être. Alors, j'ai juste tenté de vous laisser répondre, mais je surveille aussi mon écran. Allez, on va à l'Assemblée. Fabien Roussel a une question. Allez, c'est parti.
Ministre de l'économie et des finances, les hausses de factures de gaz et d'électricité suscitent au moins autant de colère que votre réforme des retraites. Des locataires de HLM de Saint-Amand-les-Eaux doivent payer des régularisations de charges de 400 à 500 euros. Nos salaires deviennent hybrides comme les voitures. La moitié part dans l'essence, l'autre moitié dans l'électricité. Des entreprises se demandent comment elles paieront leurs factures cette année. Plus 38 000 euros pour une boulangère de Rumgy, plus 30 000 euros pour un boucher à Anzin. Des communes, des services publics exclus des filets de sécurité réduisent leurs investissements. Et tous les boucliers tarifaires que vous mettez en place se révèle aussi insuffisant qu'il coûte cher à nos finances publiques. Et les Français, les entreprises, ne veulent pas vivre, survivre avec des aides, mais vivre de leur travail. Pourtant, nous avons tout en France, grâce à notre mix énergétique, grâce au nucléaire, pour faire face à cette crise. Quant à nos réserves de gaz, elles sont au plus haut. Mais depuis que la France s'est soumise aux funestes lois de la libre concurrence européenne, les tarifs explosent. Nous produisons de l'énergie à moins de 50 euros du mégawatt, mais elle est revendue 5 à 10 fois plus chère à cause de la spéculation européenne, et même votre prix plafonné à 280 euros hors taxes reste trop cher. Alors, monsieur le ministre, la France est une grande nation qui a su bâtir son indépendance énergétique. Avec notre proposition de loi, 110 députés de tous bords vous demandent de rétablir des tarifs régulés pour tous, entreprises, communes, foyers, avec des tarifs bas, à prix coûtant, stables. Alors, quand la France va-t-elle enfin sortir l'électricité et le gaz de la spéculation européenne? Et allez-vous maintenir les tarifs régulés du gaz au-delà du 1er juillet? Merci.
Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président Roussel, je vais peut-être vous surprendre, mais mis à part évidemment la remarque sur les retraites, je suis en plein accord avec ce que vous venez de dire. Vous êtes pour l'indépendance énergétique. Nous sommes pour l'indépendance énergétique. Vous êtes pour le renforcement de la filière nucléaire. Nous sommes pour le renforcement de la filière nucléaire. Vous défendez les entreprises, les boulangers, les bouchers. Nous défendons les entreprises, les boulangers, les bouchers, les artisans, les commerçants. Et nous voulons les protéger contre l'augmentation des factures. C'est bien pour cela que nous avons prévu de mettre en place un bouclier tarifaire à 280 euros le mégawattheure maximum pour toutes les très petites entreprises de France, en particulier les boulangers qui subissent cette double peine, augmentation des tarifs de l'électricité et augmentation du prix des matières premières, que ce soit le beurre, que ce soit la farine ou que ce soit le pain au chocolat, cher au pain au chocolat ou aux chocolatines en fonction de votre origine géographique. Je voudrais simplement profiter de votre question pour lancer un appel solennel à toutes les très petites entreprises qui ne se sont pas déclarées comme très petites entreprises auprès des fournisseurs d'énergie. Il faut qu'elles le fassent dans les jours qui viennent. Vous avez aujourd'hui 1,5 million de très petites entreprises qui sont éligibles aux tarifs régulés. Il n'y a que la moitié d'entre elles qui vont en bénéficier parce que l'autre moitié ont choisi les tarifs de marché et ne se sont pas déclarés comme très petites entreprises auprès de leurs fournisseurs. Vous avez 600 000 entreprises, très petites entreprises, boulangers, bouchers, artisans qui ont droit au bouclier tarifaire à 280 euros, elles doivent se déclarer comme TPE, elles doivent retirer le formulaire, elles doivent aller sur leur espace client pour se déclarer comme très petites entreprises et bénéficier de cette protection. Dès les factures de février, elles verront qu'elles ont tout droit pour les 2,1 millions de très petites entreprises au bouclier tarifaire et à la protection. Merci, que légitimement, Monsieur le Président, vous réclamez pour nos très petites entreprises.
Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Benjamin Saint-Huil pour le groupe Lyotte.
Et ça vaut bien une petite explication. Heureusement qu'Éric de Rydmaten est là. Bon, on sent qu'il s'empêtre un peu quand même dans ses réponses. Et puis il rejette en fait la faute sur les fameuses TPE qui ne font pas les démarches. C'est
il
un peu facile.
Oui,
c'est ça. Il répond pas à la question qui lui est posée. Il ne répond pas du tout à ce qui lui est posé comme question en termes de renégociation des contrats d'énergie.
J'ai un souci et j'espère qu'on aura la réponse par le ministère, c'est que aujourd'hui le tarif devrait être à 48 euros ou 42 euros, je crois, parce que c'est retombé assez bas. Bon, voilà, et on reste bloqué à 280. Alors l'explication, c'est que voilà, ce sont des tarifs qui ont été fixés avant. Le problème, c'est que pour les commerçants, ils voudraient avoir le tarif immédiat. Or, c'est souvent des tarifs négociés 6 mois avant. Voilà, le problème, il est là. Et on est victime, et je le répète depuis plusieurs semaines, de ce marché européen de l'énergie. Parce que c'est vrai que si on avait notre électricité avec notre énergie nucléaire, on serait à des tarifs relativement bas. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'on est lié à l'Europe et qu'on peut acheter et vendre. C'est vrai qu'en ce moment, on a des surproductions, on vend au prix fort. Ça arrange bien EDF. C'est la bêtise, j'allais dire, de ce marché, mais on ne peut pas y échapper. Et on ne peut pas le réformer. On peut le réformer, mais on ne veut pas le quitter. C'est ça qui est important.
Pardon de reprendre votre dialectique, mais Hubert Coudurier, peut-être que vous l'aurez noté comme moi. On est victime, on est dépendant de l'Europe. Il n'y a pas un moment où on peut en sortir et retrouver de la souveraineté.
On va pas jusqu'au bout, là, du raisonnement. Je voudrais quand même dire que dimanche, le Premier ministre Olaf Scholz, enfin le chancelier plutôt, hein, était à Paris. Il n'a rien concédé.
Voilà.
Pourquoi ? Parce que nous sommes dépendants des Allemands. La BCE est à Francfort. Et en réalité, ce tarif de l'énergie dont les Espagnols ont pu s'affranchir, nous n'arrivons pas à obtenir la même mesure. Et d'autant plus qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, on a augmenté notre dette de 90 milliards. Elle était déjà de 3 000 milliards. Donc nous sommes dans la main des Allemands. C'est trop tard. Nous avons abdiqué notre indépendance, sans parler des erreurs qui ont été faites sur le nucléaire, qui ont réduit notre potentiel énergétique.
Philippe Doucet, on va retraverser la table.
Y compris, vous avez raison, le chancelier Olaf Scholz n'a rien lâché, parce que eux, aujourd'hui, en fait, l'intérêt des Allemands, c'est que le prix du gaz, ils ont besoin de se fournir en gaz, et donc ils sont prêts à surpayer le gaz pour être sûr d'être fournis par les exportateurs mondiaux, plutôt que, par exemple, voilà, vous êtes au Qatar, vous dites, je préfère exporter vers la Chine qui va payer plus cher que vers l'Allemagne. Donc eux, ils veulent garder des prix hauts par rapport à ça, quitte à faire un effort sur leur bouclier industriel en faisant le plan sur l'industrie. Nous, le problème qu'on a, c'est qu'à un moment donné, comme j'ai eu l'occasion de le dire sur le plateau, on ne veut pas poser un rapport de force avec l'Allemagne. Voilà, donc, si je prends l'exemple des chars, les Polonais, eux, sur les chars, puisque les Allemands ne voulaient pas livrer des chars, ni même concéder les licences d'exploitation pour les chars, les responsables polonais, ils y sont allés au bazooka, si je puis dire, sur les responsables allemands, en disant, en gros, vous êtes des salauds, vous êtes des lâches. Les Allemands, ils ont lâché. Ils ont lâché, la ministre des Affaires étrangères a dit, on ne s'opposera pas aux licences d'exploitation. Simplement, les Polonais, ils y sont allés. Nous, on se couche. Voilà.
La question du rapport
Jean-Messia,
de force.
Pourquoi sommes-nous soumis à ce diktat allemand ? J'ai l'impression que tout le monde en convient là.
Je pense qu'on relira avec beaucoup d'intérêt le discours sur la servitude volontaire de la Boétie. Je pense qu'en matière de politique, il n'est de servitude que volontaire. Voilà. Je pense que en matière de politique, quand on veut, on peut. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des élites, mais ça date pas d'aujourd'hui. Hein, nous avons des élites depuis des dizaines d'années. Qui ont troqué l'impuissance de la volonté contre une véritable volonté d'impuissance. Donc on ne va pas au clash, on ne va pas au rapport de force, on accepte tout. Alors c'est toujours sous de bonnes intentions, avec de bons et de loyaux
objectifs. Ce qu'on a voulu appeler le duo franco-allemand qui n'a jamais existé, en fait.
Non, mais
je termine mon propos,
c'est qu'en fait l'Europe, tout ce que la politique construit, elle doit être au service de la politique. L'Union européenne, le marché européen de l'énergie, la zone euro, ça doit être au service des peuples et pas l'inverse. C'est pas au peuple d'être au service d'une idéologie ou d'une technocratie ou d'un marché. Si aujourd'hui le marché européen nous met des bâtons dans les roues et nous appauvrit et nous paupérise, qu'à cela ne tienne. Oui, qu'est-ce qui nous empêche de nous affranchir ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont nous déclarer la guerre ? Non.
Non. Voilà. Mais on n'a peut-être plus les moyens de s'affranchir.
Mais pourquoi si les Espagnols le font, on peut le faire. Hein.
On a essayé. D'abord, en 2007, quand Chirac a passé le relais à Sarkozy, la France était, en termes de fondamentaux, devant l'Allemagne. Ensuite, ils ont fait les réformes Hartz, ce que nous n'avons pas fait. Et nous, on s'est progressé.
En 2000, ça.
Oui, 2002, enfin, ça a commencé en 2000, mais
ça s'est poursuivi pendant le quinquennat.
Et en fait, l'Allemagne est montée en puissance, et nous, nous avons commencé à décliner. Ensuite, on s'est enfilé les crises financières.
Pardon, mais l'Allemagne n'est pas en très bonne situation aujourd'hui.
L'Allemagne a des réserves que nous n'avons pas.
Le pipeline avec les Russes, pas cher, c'est terminé. Et ils ont un problème avec la Chine, puisque aujourd'hui, même leurs exportations vers la Chine, le modèle économique radicalement est en train aussi de prendre des difficultés.
Non, mais ils ont
donc
des réserves.
Sujet, c'est pas en mode,
ils ont
sujet,
des réserves.
Pardon, c'est pas en mode binaire. Les Polonais aussi, ils sont
non,
dépendants
de
l'Allemagne puisqu'on est dans l'Union européenne.
Non,
je partage, pour le coup, il voilà. n'y a pas grand-chose que je partage avec Jean Messia, en règle générale.
Savez, ça rend pas malade.
Non, mais voilà, mais sur le coup, je pense. Par exemple, là, à titre personnel, j'engage pas mon organisation, mais à titre personnel, quand je vois le sketch, le numéro de duettiste qu'on nous a fait sur les 60 ans du traité franco-allemand de l'Élysée, le truc, on se fait des bisous et tout, alors qu'en fait, on est en désaccord sur à peu près tout.
Bah, le traité voilà, de l'Élysée.
Y compris même sur la question de l'hydrogène.
Hollande avait essayé de faire une alliance de revers avec les Espagnols et les Italiens qui n'en ont pas voulu parce qu'ils préféraient avoir un bon rapport avec les Allemands.
Alors, j'aimerais juste vous faire réagir à une autre initiative, vous en avez sans doute entendu parler, c'est la CGT Énergie de Marseille qui veut faire baisser de 50% la facture d'énergie des boulangers afin de leur venir en aide. Mais est-ce que c'est sa prérogative? Évidemment, Bruno Le Maire répond non. On va l'écouter.
Enfin, c'est pas la CGT qui décide en France. C'est pas la CGT qui décide des tarifs. C'est pas la CGT qui décide qui doit payer quoi. Et en quoi est-ce que la CGT connaît les factures à l'euro près de telle personne ou telle personne? En quoi est-ce qu'elle connaît leur compte d'exploitation? En quoi elle sait si telle entreprise est en difficulté ou pas? Puis après, ce sera les ménages. On va payer pour les uns et pas payer pour les autres. Ce n'est pas à la CGT de faire la loi en France. C'est aux parlementaires, c'est aux représentants du peuple français. C'est comme ça que ça doit exister en démocratie. Et il n'y a aucune raison que cela change.
Jean Messia, est-ce que cette manipulation de compteurs, parce que c'est de cela dont il s'agit, c'est illégal, il ne faut pas procéder comme ça, ou bien par les temps qui courent, puisque le gouvernement n'est pas capable de prendre les actions adéquates, tout va, quoi, enfin tout passe.
Bah, c'est illégal, et j'entendais ce matin certains dire c'est peut-être illégal, mais c'est moral. Alors ça serait moral si tout le monde serait concerné, si tout le monde était concerné, mais ce n'est pas le cas. Si vous faites
c'est
simplement,
ciblé, ouais.
Bah voilà, si vous faites des actions comme ça ciblées, de gratuité ciblée, bah quid des autres? Pourquoi certains paieraient et pas d'autres? Donc on comprend que ce qui est illégal devient immoral aussi. Voilà, donc moi je crois que là pour le
d'accord,
coup, comme dirait Philippe Doucet, je partage pas grand chose avec Bruno Le Maire, mais sur ce coup-là, il a raison.
Alors Philippe.
Oui, c'est pas la CGT qui décide ça, évidemment. Enfin, d'ailleurs, si c'est eux qui décidaient, il y aurait pas de réforme des retraites. Donc bon, voilà.
Mais bon,
donc,
ça vous choque pas plus que ça,
le
quoi.
Sujet. Comment? Non, mais il y a des modes d'action. Le sujet de ça, c'est la difficulté, on l'a déjà évoqué sur ce plateau, c'est que quand vous avez une réforme qu'une grande majorité de Français rejette, qui a été, et que Emmanuel Macron, au soir du deuxième tour, dit « j'entends, enfin finalement le résultat m'engage parce que j'ai été élu par des gens qui ont voté contre Marine Le Pen et pas pour moi », et que vous êtes dans un passage en force derrière, vous allez avoir des actions dans tous les sens. Voilà. Et donc la CGT, c'est ses méthodes traditionnelles. On peut être d'accord, pas d'accord, mais ils vont le faire.
En quelques mots, vous
dites
quoi de la pratique ?
C'est une chorégraphie des rapports de force qui est en train de se mettre en place. Mais quelqu'un hier disait qu'il faudrait faire un référendum. On y est déjà. On est dans un référendum anti-Macron. C'est sa réélection qui n'a pas été acceptée.
Tout à fait.
Parce qu'elle était induite par la guerre en Ukraine, par le rejet de Marine Le Pen. Et par ailleurs, quoi qu'on en dise, et quelle que soit la qualité des membres du gouvernement comme Bruno Le Maire, ils sont un peu hors sol. Ils ne vivent pas la paupérisation actuelle du pays qui conduit à des comportements extrémistes.
Allez, on continue de parler de tous ces sujets juste après la chronique écho d'Éric de Rilmatel qui est déjà là.
Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
Éric, on reste dans la même veine, on va parler des menaces qui pèsent sur les vacances, menaces de grève dans les transports et aussi, c'est un fait nouveau, dans les stations de ski avec des coupures de courant, on évoquait l'énergie à l'instant, c'est tout un business qui est menacé en fait.
Oui, et là on est encore dans le pouvoir de nuisance. CGT, Force ouvrière ont déposé un préavis de grève illimité dans les stations de ski. Donc ça veut dire que les remontées mécaniques seraient interrompues. Et c'est important parce que ces deux syndicats représentent 100% des voix là-bas. Alors le combat d'ailleurs va au-delà des retraites, puisque ces syndicats réclament une hausse des salaires pour les saisonniers. Ils réclament aussi une couverture retraite qui soit adaptée à la profession. Mais bon, là, ils oublient que les sports d'hiver, ça fait vivre beaucoup de monde et que les saisonniers, d'ailleurs, sont loin d'être à plaindre. J'ai regardé tout à l'heure, il y a un article 16 de la Convention des domaines skiables, qui est d'ailleurs généreuse. Elle reconduit les contrats d'une année sur l'autre. Donc les saisonniers, en fait, ce sont des habitués. Ils ont 8 ans d'ancienneté et 60% sont propriétaires de leur logement. Et ça, c'est une étude faite par les syndicats, d'ailleurs, validée par les syndicats, faite par les domaines skiables. Et en plus, ces saisonniers gagnent plus que le SMIC parce qu'ils ont souvent des primes et même sont logés. Voilà ce que j'ai pu apprendre dans l'article 16 de la Convention. Alors, que retenir de tout cela? C'est que, en fait, ce sont les saisonniers qui seront les premières victimes de cette grève si elle a vraiment lieu. 120 000 personnes quand même travaillent dans les stations de sport d'hiver chaque année. C'est long à se mettre en place parce qu'il faut quand même prévoir à l'avance le renouvellement, en tout cas faire venir ces jeunes qui n'habitent pas toute l'année à la montagne. Ça s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu une grève des remontées mécaniques. Mais les syndicats, on le voit, en tout cas CGT et Force Ouvrière veulent toucher un symbole. Vous l'imaginez bien, c'est le symbole des riches, puisque le sport d'hiver, c'est le ski, c'est un sport de riches. Je termine par un point. Jusqu'où ça ira? Il y a deux points importants à retenir. C'est que, un, les syndicats veulent s'en prendre maintenant à la Coupe du Monde de ski qui a lieu en mars à Courchevel. Ensuite, n'oublions pas qu'il y aura la Coupe du Monde de rugby à partir du mois de septembre. Et puis l'année prochaine, les Jeux Olympiques, vous le voyez, pouvoir de nuisance maximum, de quoi faire trembler.
Eh bien, ça tombe bien. Tout à l'heure, on ira voir un commerçant de Courchevel pour nous dire tout ce qu'il en pense. C'était la chronique Éco.
C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
Voilà, l'impact de la grève des remontées mécaniques sur toute l'activité des stations, ce sera bien sûr à la une de notre reprise antenne. Dans un instant, nous serons avec un commerçant de Courchevel dont le business pourrait évidemment en pâtir, pour reprendre un peu vos termes. À tout à l'heure. De retour avec vous pour 90 minutes info. La suite de notre débat, ce sera juste après le journal de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
La réforme des retraites ne pénalise pas les femmes, assure Elisabeth Borne, interpellée cet après-midi lors des questions au gouvernement. La Première ministre défend une réforme juste qui, au contraire, bénéficie davantage aux femmes. On l'écoute.
Au contraire, nous réduisons les inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes au moment de la retraite. Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation des petites pensions. Elles sont aujourd'hui plus nombreuses à avoir cotisé avec des revenus modestes. Et grâce à la revalorisation de la retraite minimale, près d'un tiers d'entre elles vont voir leur pension augmenter. Pour les retraités actuels, notre projet bénéficie là encore davantage aux femmes. L'augmentation moyenne des petites pensions sera deux fois plus élevée pour elles que pour les hommes.
Et toujours au sujet de la réforme des retraites, la CGT Cheminots et Sudrail proposent une grève reconductible dès la mi-février. Des trains à l'arrêt à Paris-Gare de l'Est pour une toute autre raison. En revanche, tout au long de la journée, un incendie s'est déclaré la nuit dernière sur des câbles électriques. Un acte volontaire selon la SNCF. Jeanne Cancard, vous êtes sur place avec Fabrice Elsner, le ministre des Transports. Clément Beaune s'est rendu sur place tout à l'heure.
Oui, Clément Beaune est venu faire un point sur la situation et apporter finalement un petit peu la mauvaise nouvelle aux voyageurs. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand est-ce que le trafic pourra reprendre normalement. Est-ce que ça va être demain matin, demain après-midi? Beaucoup d'interrogations ici, Gare de l'Est. Et puis regardez la situation finalement, elle se traduit assez bien en image. Une image assez rare pour vous la montrer. Une Gare de l'Est quasi déserte ici, puisque eh bien, les voyageurs maintenant ont anticipé. Ils ont été prévenus soit par les médias, soit tout simplement par la SNCF, par SMS par exemple. Et donc, eh bien, ils ont trouvé d'autres solutions. Il y en a certains qui nous ont dit moi je vais opter pour le covoiturage. D'autres qui se rendent dans les villes comme Strasbourg ou Metz ont pu accéder à des trains qui partent cette fois-ci depuis la gare du Nord. Mais pour les autres, eh bien, c'est un petit peu le mot qui revient, c'est un petit peu le mot galère. Ce qu'on sait pour l'instant de cet incident, de cet acte volontaire, eh bien, c'est que c'est un incendie qui s'est déclenché aux alentours d'une heure du matin en Seine-et-Marne. Un acte donc qui a été condamné par le ministre des Transports. La SNCF Réseau a aussi, elle, porté plainte. Tout à l'heure, dans une petite heure, aux alentours de 17h, un communiqué sera publié par la SNCF pour tenir au courant les voyageurs de ces avancées.
Galère pour les voyageurs de la gare de l'Est. Merci Jeanne Cancard. Dans le reste de l'actualité, l'idée d'un entrepreneur marseillais pour lutter contre la vie chère. Après 20 ans de bénévolat, il a créé un supermarché dont l'objectif est de proposer des produits de qualité accessibles à tous malgré l'inflation. Et pour les clients en difficulté, il existe même un panier anti-crise. Explication avec ce sujet de Stéphanie Rouquier.
En avril dernier, Bruno Parisot reprend ce local en plein cœur du quartier Saint-Just à Marseille. Après quelques réaménagements, il ouvre son supermarché atypique avec une mission, lutter contre la vie chère.
L'idée, c'est de développer des produits de qualité à bas prix. Donc on y arrive parce qu'on arrive à négocier avec nos fournisseurs et surtout parce qu'on a baissé notre marge. Voilà.
L'entrepreneur propose des produits 20% moins chers qu'en grande distribution et des paniers anti-inflation.
Là, c'est un panier type qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, il y a 35 articles et le prix de vente est de 49,99 €. Donc pour moins de 50 €, vous avez 35 articles que vous choisissez dans le magasin. Par rapport à la concurrence des autres magasins traditionnels, c'est entre 65 et 80 €.
Aujourd'hui, 120 références peuvent composer ce panier anti-crise. Bruno Parizeau espère élargir son offre à plus de 400 produits d'ici quelques mois.
Et puis on termine avec ce nouveau record de température en Chine. Le mercure est descendu jusqu'à moins 53 degrés Celsius dans la ville la plus au nord du pays, Moé, située près de la frontière russe. Moé a enregistré des températures inférieures à moins 50 pour la troisième journée consécutive. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue dans 90 minutes info avec Nelly et ses invités.
Merci beaucoup. C'est sûr qu'on va un peu moins se plaindre de la clim dans ces conditions. Parfois, il fait froid sur le plateau, mais bon, c'est sans commune mesure. Merci beaucoup, Mickaël.
Moins 53 degrés, ça commence à faire froid.
Ça commence à
parler chinois.
Je pense qu'on ne peut pas mettre le nez dehors pour parler. Pas vulgairement d'ailleurs. Allez, on va parler de ce préavis de grève qui a été déposé à compter du 31 janvier par Force ouvrière mécanique et la CGT, les deux syndicats qui laissent planer d'ailleurs la possibilité d'une journée d'arrêt dans les stations afin de réclamer purement et simplement le retrait de la réforme en l'état. Regardez ce sujet, Yael Benamou avec Charles Baget.
Si les saisonniers veulent faire grève, c'est pour réparer selon eux une injustice. Les syndicats des remontées mécaniques se mobilisent contre la réforme des retraites, mais cette grève sera surtout dédiée à la réforme de l'assurance chômage qui plonge les saisonniers dans la précarité.
Les salariés doivent avoir travaillé 6 mois pour avoir droit à ouvrir des droits. Quand vous êtes arrivé par chance à avoir 5 mois de travail sur une saison, c'est déjà pas mal pour beaucoup de saisonniers. Donc après, on fait comment ? Quand vous n'avez que 5 mois, vous n'avez rien.
Pour autant, il est peu probable que les salariés des stations de ski soient en grève tous les jours, reconnaissent les responsables syndicaux. FO assure qu'une seule journée de mobilisation sera organisée en février, mais cette grève divise.
Ce n'est pas normal de sacrifier les vacances des gens et surtout, je pense que ce n'est pas bon pour la consommation. On sort déjà d'une période de crise.
Je ne connais pas trop les conditions de travail de ce secteur-là. Donc je pense que s'ils font grève, c'est qu'ils doivent avoir de bonnes raisons de le faire.
Cette action coup de poing serait leur ultime recours pour se faire entendre.
On ne prend personne en otage. Je pense que ce sont les saisonniers qui, depuis longue date, se font prendre en otage par des mesures qui, quelque part, ne correspondent pas à leur rythme de vie.
Les syndicats des remontées mécaniques espèrent rapidement obtenir des rendez-vous et des avancées auprès du gouvernement.
Un témoignage pour aller plus loin sur cette question. Nous sommes en direct avec Anthony Guérin, qui est commerçant à Courchevel. Bonjour, merci d'être en direct avec nous aujourd'hui sur CNews. Vous avez entendu ce qui s'exprimait dans ce sujet. Alors, je vais vous demander tout simplement où vous vous positionnez entre solidarité et inquiétude. Quel impact une grève aurait-elle, une grève des pistes aurait-elle sur votre activité à vous ?
C'est plutôt du côté inquiétude que l'on se positionne, nous, en tant que commerçants, puisque c'est mon cas. Et puis, c'est un mauvais signal qui est envoyé pour les vacanciers, d'une manière générale, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Ça nous pose forcément des problèmes d'envoyer des signaux comme cela, puisque les dernières réservations pour les vacances de février sont actuellement en train de se faire. Avec un taux de remplissage qui est plutôt bon en fonction des vallées. Mais c'est vrai qu'on a besoin, après les années de crise, hein, 3 années impactées, 3 hivers impactés par les différentes crises Covid qui sont passées par là, la guerre en Ukraine qui nous a beaucoup impactés également. Aujourd'hui, on est déjà impactés en tant que commerçants, nous aussi, par le coût de l'électricité. Donc c'est une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Et puis ce serait forcément, d'un point de vue financier, à nouveau catastrophique, et ça pourrait mettre à bas une partie, une nouvelle fois, de l'économie de montagne qui a beaucoup souffert ces dernières années.
Mais du coup, vous vous dites quoi concernant ceux qui gèrent les opérations de remontée mécanique, ces fameux pisteurs qui ont des carrières pénibles, qui sont quand même au contact des éléments jour après jour? Vous vous dites, ils jouent contre nous et contre eux-mêmes, parce que déjà, voilà, on a un manque à gagner conséquent lié à la crise sanitaire, comme vous le rappeliez justement, où vous vous dites à un moment, il faut quand même frapper là où on nous entend, c'est-à-dire au moment où il y a le plus de public.
Non, parce que ça a été dit dans votre sujet précédent, la problématique, elle n'est pas tant sur les retraites. Le mot d'ordre syndical aujourd'hui, en ce qui concerne les journées d'action qui vont être soi-disant emmenés en station, c'est plus par rapport au statut de saisonnier. Donc une nouvelle fois, c'est les syndicats, d'une manière générale, qui essayent de faire valoir des droits et qui n'ont rien à voir avec le sujet actuel. En tout cas, ce n'est pas ce qui est mis en avant. On a entendu le syndicat ce matin à FO avancer ce sujet-là par rapport au sujet saisonnier et non par rapport aux retraites. Donc ils essayent de faire un effet boule de neige, sans mauvais jeu de mots, pour essayer de faire valoir leurs droits, mais qui n'a rien à voir avec la réforme des retraites aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas ce qui est avancé.
Parlons concret. Vous avez peur là, d'annulation en série depuis que le mot circule, qu'il puisse y avoir des blocages ?
Alors, peur forcément un petit peu. Maintenant, on reste vigilant. On a connu cette crise-là, enfin, ou ces différentes crises, donc on sait gérer les crises aujourd'hui. Maintenant, ce ne sera évidemment pas de la même ampleur. On n'avait pas forcément besoin de ça, d'attirer forcément les lumières sur ces sujets-là dans les stations, d'une manière générale. Les gens ont besoin de prendre un petit peu de plaisir aussi pour profiter de leurs vacances. Et puis, malgré tout, d'une économie, faire vivre une économie qui, on l'a vu pendant cette crise Covid, j'y reviens à nouveau, représente entre 2 et 3% du PIB, ce qui n'est pas négligeable. Et donc, ça ne sert à rien, une nouvelle fois, d'agiter ce chiffon rouge une nouvelle fois. Et il faut qu'on laisse travailler sereinement jusqu'à la fin avril ou début pour les stations les plus lointaines.
Merci beaucoup. La liaison commence un petit peu à dérailler. C'est peut-être le grand air. Merci en tout cas pour votre témoignage. Et on comprend bien sûr vos inquiétudes aujourd'hui. Hubert Coudurier, il y a deux façons de le voir, même si lui décorrèle un peu l'action de la réforme des retraites stricto sensu. Oui. Il y a un manque à gagner clair, si on prend le point de vue de ceux qui risquent leur vie au quotidien pour déclencher les avalanches. Ils ont envie de se faire entendre comme ils le peuvent.
Qu'il y avait un côté référendum anti-Macron. Je pense que Macron a fait une erreur en plus en ne décrivant pas l'état de la société, de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'on dit qu'il y a 7% de chômeurs, mais en fait il y en a beaucoup plus. Le travail s'est précarisé. Mais à contrario, les syndicats doivent faire attention, et notamment la CGT. Parce que si, d'abord, on va voir si la CFDT reste solidaire jusqu'au bout, si les mouvements de grève se répètent et se multiplient. Et puis, je veux dire, il y a des risques de guerre civile. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter ce genre de situation. Alors là, on peut dire, effectivement, il y a peu de gens qui vont au sport d'hiver. Ça représente quand même une partie, un secteur économique qui n'est pas totalement négligeable. Mais ça risque de se multiplier dans des tas de domaines.
À force de jusqu'au boutisme, on peut voir une fissure intersyndicale quand même.
Alors là, si je reviens sur ce qu'a dit le syndicaliste de FO, c'était arrêtez-nous avant qu'on fasse un malheur. Hein. Donc il joue à ça. Après, c'est sûr que la condition, c'est assez habilement joué, puisque je rappelle, 9% des Français seulement vont au sport d'hiver, donc c'est plutôt les catégories avec des revenus importants, donc celles qui peuvent effectivement influer quelque part sur le gouvernement. Et en fait, eux, leur sujet, c'est la réforme de l'assurance chômage. Bon, donc ils glissent ça dans le milieu de tout ça, parce qu'effectivement, en plus de la réforme des retraites, à un moment donné, le gouvernement a annoncé une réforme de l'assurance chômage avant de faire un retour arrière, au moins partiel, et donc lui-même a rajouté de la bombinette dans la bombe générale de la réforme des retraites. Là aussi, en termes de gestion politique, je pense qu'il y aurait beaucoup à dire. Donc, eux, on voit déjà qu'ils sont sur un jour, donc ils savent bien aussi que, la preuve, on en parle. La preuve, ils savent aussi que le secteur de la montagne, même si c'est que 9% des Français, c'est aussi... il y a aussi une économie de géographie, puisque c'est des vallées, donc il y a un enjeu pour ces territoires-là extrêmement important. Hein, donc les communes font beaucoup de revenus autour de ça. Et donc c'est, d'un point de vue syndical, assez habilement joué. Et dit, appelez-nous, puis on va voir si on peut se mettre autour de la table.
Un dernier commentaire rapide, Jean Messia. Est-ce que c'est une forme de prise d'otage des vacanciers, de certains vacanciers?
Ça commence à faire beaucoup, les prises d'otages, là, depuis le début, entre les trains, les raffineries, enfin bon, quand des secteurs de plus en plus variés et multiples de la société commencent à se mettre en grève ou à bloquer les choses, c'est qu'il faut se poser une question. Alors, le pari d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, ça a toujours été de dire que les Français n'aimant pas le désordre, les Français n'aimant pas la chienlit, de toute façon, ils rejetteront toujours la faute sur les syndicats, la faute sur ceux qui se mobilisent, la faute sur ceux qui bloquent le pays, et nous, on arrivera toujours à tirer notre épingle du jeu. Je crains que cette fois-ci, compte tenu de l'impopularité de la réforme et de l'impopularité encore plus grande du gouvernement lui-même, je crains que cette fois-ci, les Français ne rejettent pas la faute sur ceux qui bloquent le pays, mais plutôt sur ceux qui ont entraîné ces blocages, à savoir le gouvernement et sa politique de réforme au pluriel impopulaire dont les Français ne veulent pas.
Alors nous étions il y a quelques minutes encore à l'Assemblée, on a écouté certaines des questions au gouvernement qui ont été posées dans l'hémicycle, et nous sommes désormais en duplex avec l'un de ses députés, c'est Paul Vannier pour la France Insoumise. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct sur notre antenne. Plusieurs questions liées à l'actualité. Bonjour. On reviendra bien sûr à la question la plus prégnante sur la place des femmes dans cette réforme des retraites dans un instant. Mais parce qu'on parlait beaucoup d'énergie tout à l'heure, vous savez que la CGT Énergie de Marseille a envie de faire baisser de 50% la facture des boulangers pour les aider. Je me souviens d'un Manuel Bompard dans vos rangs qui disait il n'y a pas si longtemps qu'il n'était pas contre les menaces de coupure contre les élus. Est-ce que vous aussi, vous êtes solidaire de cette pratique de manipulation des compteurs aujourd'hui pour alléger les choses ?
Oui, je le suis. Bon, c'est aux salariés de décider de leur modalité d'action, mais je suis le partisan de toutes les actions de solidarité. C'est dans le tous ensemble que nous allons l'emporter et faire reculer le gouvernement. Donc tout ce qui concourt à fédérer ceux qui ont de bonnes raisons aujourd'hui de protester, de se mobiliser, de se mettre en grève, de manifester, va dans le bon sens. C'est bon que, en effet, la CGT vienne en soutien des boulangers. Les deux sont victimes du même gouvernement, des mêmes politiques qui encouragent le marché, la mise en concurrence et qui pénalisent les Français, dont chacun le sait. Aujourd'hui, le quotidien est difficile, le pouvoir d'achat est en baisse et les inquiétudes sont grandes avec cette réforme des retraites à 64 ans.
Oui. Donc vous donnez quitus à... Je crois que c'est Alexis Corbière qui disait l'autre jour, nous, tout ce qu'ils entreprennent, on sera derrière. L'intersyndicale, de toute façon, voilà, vous désolidariserez pas, quoi qu'il arrive.
Non, on sera en appui, en effet, de cette intersyndicale qui a lancé le mouvement le 19 janvier dernier, qui appelle à faire grève, à manifester le 31 janvier. Nous serons là, nous, la France Insoumise, ses députés, ses militants, ses sympathisants, dans les cortèges en soutien. Et ici, à l'Assemblée nationale, une opposition résolue au projet du gouvernement. Il est minoritaire, ce gouvernement, avec cette réforme qui ne fait que des perdants, qui propose, au fond, de travailler plus pour gagner moins. Il va essayer, le gouvernement, ici à l'Assemblée nationale, par les moyens les plus autoritaires, 49.3, 47.1, par le recours aux ordonnances peut-être, d'imposer sa réforme. Mais ici, il y a une majorité, je crois, de députés qui représentent au fond une majorité de Français qui sont opposés à cette réforme et qui sont bien décidés à tout faire pour le conduire à abandonner son projet.
Alors justement, parlons de la retraite pour les femmes, dont on a dit que c'était l'angle mort de cette réforme. Il y a eu beaucoup de chahut au moment de l'intervention d'Elisabeth Borne tout à l'heure. On sent que là, il y a quand même un sujet dans lequel une brèche dans laquelle s'engouffrer. Ça vous paraît complètement incohérent, cette place non faite aux femmes, en tout cas cette non prise en compte des carrières hachées en leur demandant de travailler plus ?
Mais on est tous perdants, et les femmes en particulier. Parce que vous l'avez dit, ce sont elles qui subissent les carrières hachées, les temps partiels imposés. Et c'est donc pour elles que d'obtenir ces 43 années de cotisation pour bénéficier de la retraite à taux plein va être le plus difficile. En réalité, la réforme que prépare le gouvernement pour les femmes, elle va conduire à ce que pour obtenir une retraite à temps plein, elles doivent travailler jusqu'à 67 ans. C'est l'âge d'annulation de la décote. 67 ans, imaginez pour les infirmières, pour les aides-soignantes, pour les enseignantes, pour toutes ces femmes aux métiers essentiels, c'est extrêmement tard. C'est beaucoup trop tard. C'est, au fond, mauvaise santé, des accidents du travail, des maladies professionnelles qui vont se développer. Et donc, elle est particulièrement injuste pour les femmes, cette réforme. Oui, c'est vrai. Il y a un seul ministre qui l'a reconnu, c'est Franck Riester. Pour les autres, il reste dans le déni, dans le mensonge. Il y a beaucoup de cacophonie aujourd'hui au sein du gouvernement.
Merci beaucoup Paul Vannier d'avoir répondu à nos questions et on va remercier Gauthier Lebray pour la réalisation de ce duplex. Vous avez mis en duplex avec nous Philippe Doucet et Jean-Laurent Constantini pour les images, bien sûr. Philippe Doucet, réaction. Bon, bah, là, vous êtes un peu au diapason quand même. Hein. Vous n'êtes pas PS ligne NUPS, hein, on le rappelle quand même. Mais là, oui, sur ces choses-là...
Sur l'histoire de la retraite, enfin nous, la question de la pénibilité du travail, la question de l'égalité homme-femme, ouais. Je rappelle que c'est François Hollande qui a maintenu le départ à 60 ans pour les carrières longues. Le sujet, il va rester, notamment sur ce qu'évoquait le député Paul Vannier, sur tous ces jobs difficiles, sur lesquels on voit bien... Alors ça vaut pour les femmes avec en plus l'aspect haché. Ça vaut aussi pour les critères de pénibilité. Et un des problèmes de la réforme des retraites aussi, c'est dans ce rapport de confiance au gouvernement, c'est la suppression des critères de pénibilité quand Emmanuel Macron est arrivé en responsabilité en 2017. Et donc, du coup, on avait mis nous en place dans la réforme Touraine des critères de pénibilité. Le patronat a été contre. Emmanuel Macron est arrivé, il les a dégagés. Et aujourd'hui, ils vont remettre d'autres critères. Donc, évidemment, la confiance n'est pas vraiment là en disant pourquoi tu vas remettre en 2023 ce que tu as supprimé en 2017-2018. Et donc, ces questions-là des métiers est posée. Et donc, Hubert Coudurier l'évoquait tout à l'heure. On va avoir que dans les sujets, on va avoir la question des femmes où je pense qu'ils vont être obligés de lâcher. Il y a la question de ceux qui ont démarré à 20 ans où tout le monde a bien compris qu'en fait, eux, parce que les carrières longues, a priori, à ce stade, seraient préservées. Oui. Mais ceux qui ont démarré entre 19, 20, 21 ans, eux, ils vont avoir une année de plus, finalement, de fait. Donc, ils en seraient à 44 ans, 45 ans de cotisation. Et donc, là, il va y avoir aussi ce sujet-là. Il va y avoir aussi la question des 1200 euros bruts versus 1200 euros nets. Donc, effectivement, vous l'évoquiez tout à l'heure, je pense que dans les discussions parlementaires, je pense que sur ces trois critères-là, ils vont être obligés de lâcher. Et d'autant plus que, à ma connaissance, ils n'ont pas le soutien des députés Les Républicains, contrairement à ce que Eric Ciotti a évoqué avec Emmanuel Borne.
On verra que le compte n'y est pas forcément.
Le compte n'y est pas.
Mais j'aimerais qu'on écoute quelques membres du gouvernement qui tentent tant bien que mal de communiquer sur cette question, notamment de la retraite des femmes. On voit que ce n'est pas si simple.
La durée de cotisation des femmes va augmenter un peu légèrement à celle des hommes en moyenne. Mais il faut apporter plusieurs précisions. D'abord, les femmes continueront de partir à un âge de départ effectif à la retraite similaire à celui des hommes.
Les femmes, aujourd'hui, dans la situation actuelle, sont victimes d'inégalités dans la carrière. Le fait qu'elles doivent s'arrêter plus que les hommes de travailler. Le fait qu'elles aient un salaire qui est moins élevé que celui des hommes. Ces inégalités, elles se traduisent aujourd'hui au moment de la retraite. Ce qu'on fait dans le cadre de cette réforme, c'est qu'on prend des mesures pour corriger ces inégalités.
Je ne veux pas laisser dire qu'on n'a pas pris en compte la situation des femmes sur beaucoup de paramètres. Encore une fois, aidants, congés parentaux, décotes, petites pensions, ce sont les femmes qui sont aujourd'hui victimes d'une situation sociale défavorable et ce sont elles qui vont bénéficier le plus de ces mesures et c'est juste et légitime.
Ou alors on n'a rien compris. Mais on dit tout et son contraire dans cette affaire.
Oui, parce qu'on ne connaît pas toujours.
On a l'impression que ce sont elles qui sont favorisées.
De la loi, mais aujourd'hui, c'est le sujet des femmes. Oui. Demain, ça va être le sujet des jeunes. On est dans une grille d'analyse de lutte des classes, alors que c'est plutôt de lutte des générations dont il faudrait parler. Et les seniors sont sans doute pas mis suffisamment à contribution par rapport aux jeunes qui ont du mal aujourd'hui à se loger, alors que les seniors possèdent leur appartement. Et donc, je pense que en même temps, la France ne vit plus dans une île. Elle est, même si elle dépend trop de l'Allemagne, elle est interconnectée au monde. Et on a vécu un certain nombre de crises de la mondialisation depuis quelques années. Crise financière, crise sanitaire, maintenant une crise entre États, crise pas encore nucléaire, mais une crise militaire. Et donc, il faut quelque part que pour ce second mandat, le président de la République dessine son dessin au-delà des mesures parcellaires qui sont présentées et qui ne donnent pas de sens. On attend sa parole depuis 6 mois. Il va être obligé, d'une manière comme l'a fait Mitterrand en son temps, de sortir par le haut de cette crise au niveau politique. Pour l'instant, on se dit que c'est Mme Borne qui est bien seule, qui risque de payer les pots cassés.
Mais néanmoins, Emmanuel Macron est-il seul lui aussi? Quand même, hors mobilisation, Jean Messia, on a quand même l'impression que cette réforme, jour après jour, on trouve des trous dans la raquette. Elle est bien mal engagée, quoi. C'est bien mal enclenché comme
processus. Mais en fait, tout dépend de quel point de vue vous adoptez. Si vous adoptez le point de vue de l'Union européenne et des exigences en matière budgétaire notamment, la réforme correspond aux souhaits de Bruxelles et au canon budgétaire de l'Union européenne. Donc c'est une réforme qui est une réforme malthusienne, c'est-à-dire qu'elle vise à rendre, je dirais, de plus en plus rares les gens qui ont accès à une retraite à taux plein. C'est une réforme punitive qui va amoindrir le taux de retraités à taux plein. Donc, alors, ça s'exprime de différentes façons. Ça, c'est la logique générale. On a parlé des femmes. Il a été question de leur retraite à 67 ans. Mais on pourrait parler aussi des carrières longues. Tout ça est fait pour qu'effectivement, on fasse des économies. Mais pas des économies pour équilibrer le régime général. Des économies pour faire des excédents permettant à Emmanuel Macron et à son gouvernement de financer d'autres dépenses, ce qui n'a jamais été la logique de notre système par répartition. Et alors, le problème, c'est que si de moins en moins de personnes touchent une retraite à taux plein, comment vont-ils pouvoir vivre après leur retraite? C'est là qu'interviennent les retraites privées, c'est-à-dire la retraite par capitalisation. Parce que moins le régime par répartition vous fournit une retraite à taux plein, plus ça ouvre un angle pour le privé. C'est ça la logique d'Emmanuel Macron. C'est à la fin de privatiser le plus possible les choses.
On va devoir s'interrompre, hein, Philippe, je vous le dis tout de suite.
Mais... C'est
vrai. Ouais. Vous vouliez faire une punchline, à moins de faire une punchline la journée.
Non, ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Hubert Goulerier, c'est que derrière le problème du dessin du président de la République, on l'attend depuis déjà la campagne présidentielle. Ouais. Moi, mon analyse, c'est que depuis la crise des Gilets jaunes, où il était dans une logique de faire du social-libéralisme, pour aller vite, la crise des Gilets jaunes l'a cassé et son schéma, il n'y a plus de dessin. Et donc, il navigue à vue.
Tout a été dynamité.
Il n'avait qu'un vu. Ouais. Tout a été dynamité. Il est toujours dynamité, le garçon.
Nouvelle interruption, on retournera à l'Assemblée et on parlera précisément de ce que les LR pourraient amener dans ce mix parlementaire. C'est pas si simple, hein. Ça pourrait ne pas passer aussi facilement que prévu. De retour pour une nouvelle partie, un nouveau débat à suivre juste après le rappel des titres, bien sûr, en compagnie de Mathieu Devez.
18 mois de prison, dont 6 à 9 mois assortis d'un sursis probatoire, ont été requis contre un père de famille à Roanne. En octobre dernier, il avait tabassé avec 3 amis l'agresseur présumé de sa fille de 6 ans. Elle avait été agressée sexuellement la veille dans sa chambre par un adolescent. La CGT Cheminots et Sudrail proposent une grève reconductible dès la mi-février à la SNCF. Dans un tract commun, les deux syndicats appellent à 2 jours consécutifs de grève les 7 et 8 février, 2 journées en plus de celle du mardi 31 janvier. Les syndicats souhaitent ainsi élever le rapport de force avec le gouvernement contre la réforme des retraites. Et puis l'Allemagne va examiner la demande d'autorisation de la Pologne pour transférer 14 chars Léopard 2 à l'Ukraine. Ces chars lourds de fabrication allemande doivent aider à repousser l'invasion russe. Mais en vertu de la législation allemande, un pays possédant des armements allemands doit demander l'autorisation de Berlin pour les transférer à un pays tiers.
Merci beaucoup, toujours en compagnie de Philippe Doucet, Jean Messia et Hubert Coudurier autour de cette table, sur ce plateau. Dans un instant, nous retournerons bien sûr à l'Assemblée parce que l'actualité liée à la réforme des retraites y est très vive aujourd'hui. Mais il y a d'autres thèmes à traiter, notamment cette histoire. Vous vous souvenez forcément de cette fillette qui avait été agressée à Roanne et de la vengeance de son père à l'égard de l'agresseur présumé avec 3 amis. Eh bien, ils étaient jugés aujourd'hui, enfin ils sont jugés pour violence aggravée. Bonjour Noémie Schulz. Vous suivez bien sûr cette audience au tribunal correctionnel, je crois. Le réquisitoire est tombé entre-temps.
Absolument, réquisitoire d'un peu moins d'une heure, au terme duquel le procureur de la République de Roanne a demandé la condamnation de 3 des 4 prévenus, tous déjà connus de la police et de la justice. Donc une condamnation pour 3 d'entre eux pour violence avec 2 circonstances aggravantes, avec armes et en réunion, des faits passibles de 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Alors il n'a pas demandé des peines aussi lourdes à l'encontre du père de famille dont il a compris, a-t-il dit, la colère et l'émotion. Il a requis 18 mois de prison, dont 6 à 9 mois avec sursis probatoire, une obligation de soins et de travail. Contre les 2 autres, des peines d'1 et 2 ans de prison, dont la moitié avec sursis. Avec fermeté, le procureur de la République a rappelé qu'il appartient à une seule autorité, l'autorité judiciaire, de dire si quelqu'un est coupable et le cas échéant de le condamner. Moi je dis que c'est une dérive grave de notre société, que notre société ne doit pas l'accepter. Quand bien même, a-t-il insisté, quand bien même le jeune serait coupable. Et là encore, les faits ne sont pas encore tranchés, l'enquête est en cours et ce jeune sera peut-être renvoyé un jour devant la justice, mais à l'heure actuelle, il est mis en examen. Et bien, quand bien même, je vous le dis les yeux dans les yeux, quelle que soit la décision finale, vous n'aviez pas le droit de commettre sur lui des faits de violence. En France, je le martèle, ça ne vous donnait pas le droit. Il a requis, en revanche, la relaxe à l'encontre du 4e homme dont il n'a pas la certitude qu'il a participé, qu'il a donné des coups aux mineurs.
Merci beaucoup et merci à Olivier Madinier qui vous accompagne. Petite réaction plateau. C'est très difficile de commenter une décision de justice. Encore plus un réquisitoire, mais néanmoins, je sens que vous avez quelque chose à dire sur la pratique même de la vendetta, hein, en l'espèce.
Non, moi je suis très attaché à l'état de droit, pour le coup, un état de droit, mais un état de droit qui protège ses citoyens. Et la protection des citoyens passe par une justice implacable, parce que le réquisitoire, moi je suis parfaitement d'accord avec ça, bien sûr que ce père de famille, dans l'absolu, il n'a pas le droit de se faire justice lui-même et de pratiquer ce que seul, normalement, l'État doit pratiquer, c'est-à-dire le monopole de la violence légitime. Mais je voudrais demander à ce procureur et même à cette justice, la faute à qui ? Qui condamne à des peines ridicules ? Qui aménage des peines à tire-larigot ? Qui fait des rappels à la loi quand il s'agit de faits graves ? Qui aménage des peines en dessous de 2 ans ? On vient d'avoir le verdict des meurtriers d'Axel Daurier il y a 48 heures. Là, son avocat disait que le prévenu, celui qui l'a volontairement écrasé, sera libéré au bout d'un an, enfin avec une peine aménageable, mais il sera dehors au bout d'un an. Donc si vous voulez, à partir du moment où la justice ne fait plus son travail, à partir du moment où la justice n'est pas sévère, à partir du moment où la justice n'est pas capable d'absorber la colère et la volonté légitime de punition, de sanction, voire de vengeance,
ça
ouvre la porte à toutes les dérives, à tous les excès.
Noémie Chou, c'est toujours avec nous. Quelle a été la ligne de défense de ces hommes, Noémie ?
Alors le père de famille, il n'a pas cherché à se défausser. Il a reconnu avoir donné des coups, avoir notamment pris un balai et frappé ce mineur, avoir aussi pris un câble et l'avoir fouetté en quelque sorte. J'ai vu un balai, j'ai mis un coup, je ne sais pas quoi vous dire, je voyais plus rien, je ne voyais que lui. Il explique qu'il est en quelque sorte devenu fou, enfin qu'il a perdu son esprit quand un de ses amis l'a appelé pour lui dire qu'il avait interpellé un jeune dans la rue, parce que on est alors 24 heures après les faits, après l'agression supposée de sa petite fille, et certains de ses amis se sont mis en tête de retrouver l'auteur de cette agression. Ils ont donc contrôlé des gens dans la rue, pris des photos, et à un moment ils contrôlent ce jeune qui se promène dans le quartier, un jeune qui est hébergé dans un centre d'accueil pour mineurs isolés à proximité. Bien sûr, si ça arrivait aujourd'hui, je ne le referais pas. Ça n'est pas acceptable. Je ne me maîtrisais pas moi-même. Je sais, on n'a pas à faire justice soi-même. Mais je n'ai fait que l'appréhender. Il reconnaît tout de même s'être défoulé. Ses amis, eux, ont nié avoir porté des coups. L'un d'eux a expliqué même que s'il n'avait pas été là, les choses auraient pu être bien plus graves. Ils disent s'être interposés. Et ça n'a pas convaincu le procureur, hein, qui a rappelé que le mineur avait dit avoir été frappé par quatre hommes. Et des riverains aussi ont décrit des coups portés par plusieurs hommes ce soir-là. Les policiers aussi, c'est ce qu'ils ont constaté et c'est ce qui justifie les réquisitions du procureur.
Merci beaucoup Noémie. Et donc merci à Olivier Madinier qui est avec vous. On change totalement de sujet. On va reparler de la réforme des retraites. Bonjour Gauthier Lebray. Alors vous suivez l'actualité parlementaire. Le gouvernement qui s'est dit bon, il y a la contestation de la rue, mais pour l'instant, il faut voir si ça prend et si ça s'inscrit dans la durée. Il comptait beaucoup sur les alliés, enfin des alliés de fortune LR pour faire passer son texte. Or, de plus en plus, on se dit que le compte risque de ne pas y être. Mais que se passe-t-il ? Les Républicains se défilent-ils sur cette question des retraites ?
Oui, il n'y aura peut-être pas de train en février, mais il n'y aura peut-être pas non plus de Républicains, puisque effectivement, il y en a une quinzaine de députés LR seulement qui est sûr de voter cette réforme sur plus de 60 députés. Donc vous voyez que le compte, pour le moment, n'y est absolument pas. Le gouvernement sera peut-être finalement obligé d'utiliser un nouveau 49.3. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, un sondage de l'IFOP qui montre que plus de 50% des électeurs LR sont contre cette réforme. Ensuite, les députés, les Républicains, ils quittent ici l'Assemblée le week-end, ils vont en circonscription et ils voit bien que les Français sont contre cette réforme. Et puis enfin, il y a un point qui ne plaît pas notamment à Aurélien Pradier, j'allais dire le chef de la fronde chez LR, puisqu'il y a quand même eu un deal entre Éric Ciotti et Elisabeth Borne. D'ailleurs, les députés de gauche appellent ce projet de loi sur la réforme des retraites le projet de loi Borne-Ciotti. Et bien, ce qui ne plaît pas à Aurélien Pradier, qui était d'ailleurs un opposant à Éric Ciotti dans la course à la présidence des Républicains, c'est ces fameuses 44 années de cotisation pour ceux qui ont commencé avant 21 ans. Il juge ça inégalitaire. Vous avez commencé avant les autres, avant 21 ans. Vous allez devoir cotiser 44 ans au lieu de 43. Et puis, pour ne rien arranger, il y a ce qu'a dit Franck Riester, ministre d'Emmanuel Macron, qui a reconnu que cette réforme était inégalitaire pour les femmes. Donc, les Républicains s'en servent. Elisabeth Borne a dû s'en expliquer aujourd'hui ici à l'Assemblée. Et un membre du parti présidentiel, du parti Renaissance, reconnaissait que c'était une erreur majeure de communication. Donc, c'est face à tout cela que les Républicains sont en train de se mobiliser pour le moment contre le gouvernement. Et puis, pour terminé. Éric Ciotti, ça fait plus d'une semaine qu'on ne l'a pas entendu dans les médias, le nouveau patron des Républicains. Donc ça fait dire par exemple à un très proche de Marine Le Pen que ce n'est plus aujourd'hui où est Charlie, mais c'est où est Ciotti.
Merci, c'était la punchline Gauthier Lebray, lui aussi s'y met. Merci beaucoup, merci à Jean-Laurent Constantini également en votre compagnie. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait rire. Philippe Doucet, écoutez, c'est 15 sur 60, on en est loin encore.
Je rappelle qu'il faut 38 députés LR en supposant que l'ensemble du groupe du parti En Marche Renaissance du parti de Emmanuel Macron pour que la réforme passe. Donc 15 sur 38, il en manque encore 23 si j'arrive à peu près encore à compter. Bon, donc on voit bien que c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que, pendant longtemps, François Fillon, Valérie Pécresse, tout le monde était sur la retraite à 65 ans. Deux, ça, on voit qu'aujourd'hui, Édouard Philippe Parce que si on n'entend pas beaucoup Éric Ciotti depuis 8 jours, Édouard Philippe, il est aux abonnés absents. Hein. Manifestement, il est dans le port du Havre, il fait du bateau.
Il n'est pas au ski, on
dit. Il n'est pas là. François Bayrou, il est à Pau.
Alors, François Bayrou, il tire les ficelles.
Il tire les ficelles contre
son camp. Hein. Le modem, et ses 35h30, voilà. pour l'instant, ils ont été retoqués.
C'est pas un cadeau.
Parce qu'ils ont tous les deux en tête 2027. Donc, c'est le problème de la réforme Sarkozy de 2008, c'est que. Comme un président américain au deuxième mandat, les Américains appellent ça le canard sans tête, hein,
le lame duck.
Voilà, et ben donc vous avez la même chose côté en France finalement, ce deuxième quinquennat, c'est ça. Et donc aujourd'hui, dans les circonscriptions, les députés, ils sentent bien que c'est compliqué, donc ils vont pas aller sortir de la tranchée pour aller se faire massacrer par leurs électeurs. Pour Emmanuel Macron, qui de toute façon ne veut pas passer un accord politique avec eux.
Quel courage. Voilà.
Oui, ils ont des petits mandats à défendre aussi.
Quel courage.
Ouais, mais politique, bon, le 49-3, on y va tout droit là ?
Non, mais attendez, d'abord, je crois qu'il y a un problème avec Éric Ciotti. D'abord, parce qu'il n'est jamais là. Il est dans son patelin à Saint-Laurent de Vésubie, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Ensuite, donc, il n'est pas présent pour tenir ses troupes. La deuxième chose, c'est qu'on avait dit que si jamais il était élu, le groupe républicain allait se diviser en deux. La troisième chose, c'est que je trouve quand même que ces républicains qui ont incarné les grandes heures de la République, il manque un peu de colonne vertébrale. Soit ils considèrent que cette réforme est nécessaire et ils la votent comme un seul homme, soit on est dans les petits jeux politiques de la 4e République, là. Franchement, y avoir peur par rapport aux électeurs, il n'y a pas de législative tout de suite, sauf dissolution,
oui,
qui finirait par arriver. Bah, franchement, quel manque de courage.
Un dernier mot de commentaire,
Oui, les Républicains sont effectivement entre le marteau et l'enclume, parce que d'un côté, ce que propose le gouvernement n'est pas si éloigné de ce qu'eux-mêmes ont proposé pendant des années, et ce d'ailleurs en quoi ils croient intimement. Ils sont intimement convaincus de 90 à 95% de la réforme. Donc,
il faut allonger en tout cas la
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, évidemment, là, je ne vous rejoins pas tout à fait, parce que, et d'ailleurs, c'est le cas aussi des macronistes, c'est qu'il y a quand même le peuple français et leurs électeurs respectifs à affronter. Donc je ne suis pas sûr, si vous voulez, que ce soit d'ailleurs la totalité des parlementaires de Renaissance ou la totalité des parlementaires, les Républicains, je ne suis pas sûr qu'ils fassent le choix de la réforme contre leurs électeurs.
Est-ce qu'on a des hommes politiques qui sont capables encore aujourd'hui d'aller contre l'opinion ?
Non mais attendez,
De Gaulle et l'Algérie,
on a ça encore en magasin ? Non, attendez, les hommes politiques...
De Gaulle et l'Algérie, c'était un homme. Hein.
Les hommes politiques...
Il a joué de multiples rôles.
Attendez, non mais on se trompe, parce que les hommes politiques, excusez-moi, ils ne sont pas là pour aller à l'encontre de l'opinion, ils ne sont pas là pour faire une entourloupe à l'opinion, pour faire passer en force des choses qui sont radicalement et totalement impopulaires. Les hommes politiques, lorsque les Français les élisent, ils sont là au service des Français. Ils ne sont pas là à leur rencontre.
Mais
quelle idée vous avez de la démocratie ?
Monsieur Messia, mais dans cette affaire-là, en tout cas, les Républicains, que ce soit depuis François Fillon, peut-être même avant, la retraite à 65 ans, c'est dans leur programme présidentiel, législatif. Et donc, là-dessus, ils devraient soutenir le gouvernement. Parce que pour le coup, ils n'ont pas pris leurs électeurs en
fait. Petite suspension de séance, si vous le voulez bien. Puis on reviendra pour parler d'un tout autre sujet. Ce sont ces influenceurs qui deviennent des voleurs, enfin des arnaqueurs. La pratique est de plus en plus courante. C'est un vrai fléau maintenant. Mais les médias généralistes s'en emparent et la justice aussi. À tout à l'heure. De retour avec vous, on va parler d'un célèbre couple d'influenceurs qui est accusé d'escroquerie par un collectif. En fait, ils sont visés par deux plaintes pour escroquerie en bande organisée. Ce ne sont pas les seuls, loin de là, à être visés par ce genre de plaintes. Des pertes pour ceux qui les suivent aveuglément s'élèveraient à plusieurs millions d'euros. De quoi parle-t-on ? Regardez ce sujet, Célia Judas avec Amina Tadem.
Je l'ai dit plusieurs fois en story, je prends de l'argent sur l'affiliation, j'ai aucun mal avec ça, c'est un business.
Ils affichent leur fortune sur les réseaux sociaux et font rêver leurs millions d'abonnés. Une vie de luxe qui semble alors à la portée de tous. Ces influenceurs profitent de la proximité qu'ils entretiennent avec leur communauté pour promouvoir des placements financiers frauduleux.
J'ai posé 500 euros, je suis monté à 800 euros au bout de 2-3 jours, et sauf que le 4e ou 5e jour, j'ai tout perdu.
J'ai déposé une première fois 500 euros. Que j'ai perdu. Donc j'ai remis 500 euros, que j'ai perdu aussi.
Face à ces escroqueries, deux plaintes du collectif Aide aux victimes d'influenceurs ont été adressées hier au parquet de Paris. La première vise la plateforme Animoon et des opérations financières à travers un jeu vidéo de contrefaçon. Une arnaque qui a regroupé plus de 5000 investisseurs pour une levée de fonds estimée à plus de 6 millions de dollars. La deuxième plainte concerne Marc et Nadé Blatta. Établi à Dubaï, le couple suivi par 7 millions de personnes sur Instagram est soupçonné d'avoir incité leurs abonnés à des pratiques de trading trompeuses.
Oui, mais Marc, est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai?
Depuis plusieurs années, de nombreuses personnalités sont accusées de malversations en ligne. Ce 23 janvier 2022 marque la première plainte déposée en France contre certains d'entre eux.
Hubert Coudurier, oui. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'information du Télégramme. Ça va au moins créer un précédent que cette première plainte, parce que là, on le voit, on le sentait hein, depuis... on le voit sur les réseaux sociaux circuler ce genre de complaintes. Il y avait trop d'abus, de toute façon.
Ah, déjà, il y avait des abus au niveau des fake news, c'est-à-dire qu'on raconte un peu n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Nous avons, nous, le mérite quand même d'essayer de faire des informations recoupées, vérifiées. Et en plus, maintenant, on est passé au stade supérieur de l'arnaque. Que ça devient pour les gens crédules, et Dieu sait s'il y en a, ça devient difficile de ne pas se faire avoir, parce qu'ils sont très séduisants, ces influenceurs. Ils vous font rêver de Dubaï, de belles voitures. C'est compliqué, hein, c'est compliqué de...
La plupart du temps, il y a quand même des influenceurs déplacement de produits qu'ils font avec en toute transparence, c'est-à-dire qu'ils affichent la couleur, ils disent... Le problème, c'est quand on essaie d'embarquer les gens dans des montages quoi, hein, financiers, des systèmes oui, de Ponzi, de choses comme
alors,
ça.
Alors, il y a ça, mais il y a toute forme de... Si vous voulez, le problème des influenceurs, c'est qu'ils ne sont pas encadrés par la loi. C'est en fait, au départ, comme la publicité, naguère, il y avait des publicités mensongères, par exemple. Puis, la loi a codifié tout cela et a permis d'avoir des publicités, je dirais, dans un cadre légal qui protège à la fois le consommateur... contre les abus. Là, en l'occurrence, les consommateurs ne sont pas protégés. On lit tout un tas de pipeaux, etc. Mais je vais vous dire, les influenceurs, ils ne concernent pas que le monde du vêtement, du parfum et de la cosmétique. Ils concernent aussi la politique. Quand on voit, par exemple, que 10 grands éditorialistes ont été reçus secrètement à l'Élysée par Emmanuel Macron pour tenter de vendre la réforme des retraites à l'opinion. Vous voyez bien que là, il faut lutter contre toute forme d'influenceurs, y compris les influenceurs politiques et les influenceurs pour des gens
beaucoup
plus graves.
J'en étais pas. La presse régionale en a été écartée, sauf un titre bien connu.
Je ne parlais pas de vous. Non. Je ne vais pas citer de nom.
Je trouve que vous exagérez un peu. Le chef de l'État fait sa com.
Jean Messia, c'est qu'il
a pas du tout.
Le chef de l'État fait sa com, c'est normal.
Absolument pas. Je pense que vous êtes un excellent lecteur et que vous avez lu cet ouvrage de Serge Halimi paru au lendemain du traité de Maastricht qui s'intitulait « Une opinion, ça se travaille » où il montre parfaitement, c'était l'ancien directeur du Monde diplomatique, où il montre parfaitement comment l'opinion publique peut être travaillée avec des techniques marketing, des techniques d'influenceurs. À l'époque, on n'appelait pas ça comme ça.
Les journalistes sont moins crédules, normalement.
Et beaucoup de journalistes, lorsqu'on voit les unes de presse en 2017 pour faire élire Emmanuel Macron, ça trompe personne. Je veux dire, beaucoup de journalistes sont macronistes.
Allez, revenons à nos moutons. J'ai envie de dire, c'est le cas de le dire. Bon, ce qui est terrible, c'est qu'on utilise aussi la bonne foi des gens et qui n'ont pas beaucoup d'argent pour les mettre vraiment dans le pétrin.
Moi, ce qui me sidère, il y a le débat sur l'influence politique. Emmanuel Macron, il joue sa partie. Les gens ne sont pas obligés. Je pense qu'il y a des outils. Moi, ce qui m'étonne à chaque fois, j'ai entendu autre chose sur l'histoire des relations amoureuses, mais c'est la naïveté. C'est que du coup, imaginons, Jean Messia est influenceur, il met une casquette en disant
«
I am punk ». Ça ne trompera pas le client, quoi. Vous voyez, donc personne ne sera surpris. A priori, il a pas l'air d'avoir une tête de punk. Bon, ça c'est une chose. Mais après que des
quelqu'un chante Indochine dans sa voiture.
Mais après, quand des gens versent des montants considérables, 500 euros plus deux jours après 500 euros comme ça, alors que normalement, par exemple sur les crédits, il y a tout un tas de choses qu'encadre. Et donc effectivement, il faut arrêter, il faut encadrer.
Moralement, c'est pas bien, quoi.
Mais bien sûr, voilà. Et on voit bien, parce que j'ai entendu il y a 2-3 jours un reportage sur des femmes qui avaient noué des relations essayées par les réseaux sociaux, des réseaux.
Alors c'est encore autre chose. Il y a des actes de harcèlement et d'agression sexuelle.
Voilà. Non, non, mais dans des logiques de naïveté, une logique de naïveté. C'est quand même incroyable. Donc faut protéger ces gens-là. Faut les protéger.
Mais le problème, la naïveté, elle vient d'où? C'est qu'on assiste aussi, parce que c'est très souvent des jeunes, voire des très jeunes qui tombent là-dedans. Or, ça participe de quoi? Ça participe de l'effondrement général du niveau éducatif, là où les socialistes pendant des années ont dit le niveau monte, bah, le niveau est tellement monté que maintenant vous pouvez manipuler n'importe qui sur les réseaux sociaux. Les jeunes aujourd'hui n'ont plus la capacité à trier le bon grain de livret.
Ça s'apprend, on devrait avoir à l'école une éducation média.
Ils n'ont plus la capacité ni à juger, ni à jauger. Ce sont des suivistes. Voilà.
Où vous voulez dispenser ces cours-là?
Mais à l'école, on pourrait... Non mais aujourd'hui, quand on voit partout...
On n'est pas capable de donner des cours sur la laïcité.
Mais attendez, aujourd'hui, on forme bien les profs sur les questions de la laïcité. Je lisais le rapport sur le sexisme. Quand on voit que c'est sur les jeunes hommes aujourd'hui que le sexisme est encore plus important, et pourtant on en parle, c'est qu'à un moment donné, parce qu'il y a la question du déferlement pornographique sur les réseaux sociaux, sur Internet, pardon. Et donc à ce moment-là, il faut aussi avoir cette éducation-là. On apprend ça.
Il faut apprendre
à naviguer avec la télé, il faut apprendre à naviguer avec les réseaux sociaux.
Allez, une dernière...
Oui, les réseaux sociaux, et puis on ne peut pas toujours projeter une société rêvée. On est rattrapé par le réel.
Merci à tous les trois de nous avoir suivis. J'étais ravie de vous cette émission en votre compagnie.
Et on veut la casquette I am a punk de Jean Messia.
La vidéo est disponible.
Il va la ramener. Je vous assure qu'il la ramènera si vous le chauffez un peu. Dans un instant, Punchline, bien sûr, avec Laurence Ferrari. On s'excuse pour le petit retard et on vous retrouve ici même à 15h30 demain, mercredi. Excellente fin d'après-midi.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.